Donc on a deux univers pas si contradictoires, je vais y arriver, que l'on pourrait croire. Donc des personnages qui sont des personnages mixtes, si on peut dire, employer cette expression. Donc un lectorat mixte, vous en êtes la preuve. Donc les garçons sont minoritaires, mais je pense qu'ils vont être tout aussi intéressés que les filles. Donc deux univers très différents, un univers post-apocalyptique qui rentre pas trop dans les critères classiques de la science-fiction. Pour Pauline, on est entre science-fiction, fantasy, enfin, on en parlera, on essaiera de décrire plus précisément tout ça. Même si je veux pas forcément que ça rentre dans une case.
Ah, très bien.
C'est pas un problème.
Alors c'est bon.
on peut être en dehors. Pour Bertrand, c'est peut-être un petit peu plus clair. On est vraiment dans un thriller ultra contemporain, donc très impliqué, très ancré dans une réalité que l'on voit au journal télévisé. Vous avez eu un flair assez spectaculaire, à mon sens, pour parler des deux problèmes très récents. Donc, le premier tome, on verra, consacré à un univers proche des laboratoires pharmaceutiques et des scandales y afférent, le deuxième tome autour du milieu de la haute finance que je crois vous connaissez de très près, le troisième tome autour du thème des paris sportifs, paris en ligne et dopage, donc dans le milieu du sport, et le quatrième et cinquième tome, suspense, on en apprendra peut-être plus tout à l'heure. Donc, on va les faire parler un peu, parce que moi je ne suis pas là pour ça. Pauline, comment présenter les éveilleurs et convaincre Bertrand, donc il ne les a pas encore lus, d'y plonger?
Non, mais je n'ai pas besoin de le convaincre,
non,
parce que
c'est
un garçon tout à fait charmant. Je suis sûre qu'il va se précipiter sur les éveilleurs. Présenter les éveilleurs. Alors moi, je suis un peu la pire personne pour le faire, parce que je pense que je n'ai pas le recul nécessaire, en fait, pour le présenter. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? Je ne saurais pas, moi, le placer dans un genre, les éveilleurs, en fait. Je ne sais pas si c'est d'anticipation ou de la fantasy ou de la science-fiction ou tout simplement un roman de fiction.
Oui,
je pense que c'est un roman de fiction qui rend hommage un peu à ces genres que j'ai beaucoup lus et qui m'intéressent. Et je me suis aussi, c'est vrai, un peu amusée à brouiller les frontières. Parce que généralement, les frontières, c'est quelque chose qui me déplaît un peu. Enfin, voilà. Et donc, je crois qu'il est effectivement... Il flotte un peu parmi tout ça. Et je ne vois pas, en fait, vraiment l'utilité d'enserrer comme ça un roman dans un genre.
Oui.
Mais c'est vrai qu'il y a des éléments de fantaisie et d'anticipation et de science-fiction, je dirais pas, parce que la science est présente, mais d'une manière en toile de fond, puisque quand l'histoire commence, il n'y a plus de science, justement. Enfin, il n'y a plus de technologie, en tout cas. C'est surtout un roman où je voulais parler des relations, je pense, entre les personnes. C'est un roman qui parle de personnages. C'est un roman où les personnages sont la chose la plus importante, ce qui se passe entre eux et ce qui se passe en eux. Avec une volonté aussi de faire parler les générations entre elles, parce que ça me semble important et enrichissant. Et ces personnages mènent une quête, qui est une quête en fait d'identité, de leur identité propre, personnelle, et de l'identité aussi de la société, de l'humanité dans laquelle ils s'inscrivent. Voilà, c'est sûrement pas résumer les éveilleurs, parce que je sais pas le faire, mais c'est dire un peu ce qui m'a, moi, motivée à écrire cette histoire.
Est-ce qu'on peut quand même parler du contexte temporel? On est quand même dans le futur. Il s'est passé un événement très important.
Il s'est passé quelque chose quand le livre commence, donc dans le premier volume, qui est celui-là, le vert. On ne sait pas ce qui s'est passé, parce que les personnages ne le savent pas. On sait seulement qu'il s'est passé quelque chose d'assez traumatisant, qu'on appelle la grande catastrophe, et on ne sait pas exactement à quoi ça, ce que c'est ou ce que ça a provoqué, sinon qu'il n'y a plus de technologie dans le monde dans lequel les personnages vivent. Et on va découvrir en même temps que les personnages ce qui s'est passé 200 ou 300 ans avant, je ne sais plus. Donc on est dans le futur, mais un futur qui ressemble qui a des airs un peu de Moyen-Âge, mais pas vraiment non plus, parce que si on a perdu beaucoup de choses, on en a gagné d'autres. Enfin, le monde dans lequel ils vivent est modifié.
Donc on a deux personnages principaux, Clarisse et Jade. Son frère, donc deux jumeaux, frère et sœur, élevés par un homme qui est leur précepteur et qui va conduire ces deux adolescents qui ont 15 ans, je crois.
Ils ont 12 ans quand l'histoire commence, 13 ans quand, à la fin du premier volume. Mais comme on compte en lunée et pas en année,
c'est troublant.
Donc, oui, c'est des adolescents.
Voilà, des adolescents qui ont perdu leur mère le jour de leur troisième anniversaire. Ouais. C'est encore une chose qu'on peut dire. On essaie de pas trop en dire pour préserver la part de mystère. Le mystère est toujours présent dans le roman, parce qu'à la fin du premier volume, il se passera quelque chose dont on ne parlera pas, évidemment. Il ne faut pas. Mais qui va donner une tonalité complètement différente à la suite. Je trouve moins d'aventure, plus d'intériorité, et on rentre plus dans leur quête intime, en fait.
Ce qui est assez particulier quand on... Je ne sais pas si Bertrand sent la même chose, parce que je n'ai pas lu ces livres, donc je ne sais pas comment ils se développent, mais je ne les ai pas encore lus, mais je vais les lire. Ce qui est assez particulier quand on se lance dans un travail comme ça de longue haleine, qui... Je ne sais pas combien de volumes aura les éveilleurs. Toi, tu sais déjà combien il y en aura ?
Le premier cycle, on aura 5.
Voilà, tu le sais. Voilà, voilà. Moi, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si on aura 5 ou si on aura... Non, mais ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on travaille... Enfin, les écrivains travaillent de manière différente. Et ce qu'on appelle des séries, parce qu'on les appelle comme ça, ça peut se travailler, ça peut se faire de manière très particulière pour chacun. Donc, moi, je ne sais pas combien de livres il y aura, pour une seule et bonne raison. Enfin, moi, je la trouve bonne, en tout cas. C'est qu'en cours d'écriture, il se passe des choses inattendues et parfois surprenantes qui font que même si je sais où je vais et quasiment tout ce qui va se passer et surtout pourquoi les choses se passent ainsi et comment elles vont se dérouler, je ne sais pas toujours combien de temps je vais mettre. C'est-à-dire que c'est comme un voyage, sauf que moi, j'aime pas vraiment les voyages organisés, donc c'est pas un voyage organisé. C'est un voyage, c'est comme si je partais d'ici pour aller à Rome et que je savais que je voulais passer par tel endroit, que je voulais voir telle et telle chose. Mais comme c'est un voyage, il peut tout se passer au cours d'un voyage. Le train peut avoir du retard, on peut tomber amoureux de son voisin, il peut y avoir une tempête et on peut ne pas aller à cette ville où on voulait aller, donc du coup passer par une autre ville. Donc pour moi, l'écriture, c'est ça aussi, la lecture aussi d'ailleurs. Et donc il se passe parfois des choses inattendues en cours d'écriture qui font que le volume peut s'étoffer plus, davantage ou moins, généralement c'est davantage, que ce que j'avais prévu. Donc je mets juste plus de livres à arriver là où je voulais arriver. Et ce qui est particulier dans ce genre d'aventure, c'est que, justement, il faut à la fois avoir beaucoup de contrôle et de planification de ce qu'on veut faire et lâcher ce contrôle pour pouvoir s'amuser aussi un peu quand on écrit. Sinon, on fait de la rédaction, je veux dire. Pour être surpris par les événements, quoi.
Et par les personnages.
Et par les personnages.
Qui semblent avoir une vie propre au bout d'un moment.
Ils l'ont.
Voilà. De force.
Ils l'ont, enfin, je sais, c'est bizarre de parler comme ça, mais de fait, ils l'ont. Et il se passe des choses qui ne sont pas prévues au départ. Ouais. Mais alors, je disais tout ça pour répondre à la question qui était
quoi ? Je ne sais plus moi-même.
D'accord. Alors ça va. Ah oui, ce qui se passe. Oui, voilà. Et donc, moi, je sais... Voilà, tout ça, c'était pour dire ça. C'est que moi, je sais, en écrivant le premier volume, pourquoi je mets les choses en place de cette manière, parce que je sais ce qui va se passer après. Mais je sais aussi que pour le lecteur, et alors je le sais d'autant plus que j'ai la chance d'avoir un contact assez fréquent avec mes lecteurs, qui me renvoient leur ressenti, leur lecture, et ça, c'est vraiment génial. Et donc, je sais aussi que c'est terrible pour le lecteur. Et je le sais parce que je suis une lectrice aussi. Et que donc, moi aussi, quand je dois attendre un an ou un an et demi pour avoir la suite d'un livre, ça me... Oui, elle dit oui. C'est pas simple. Mais en même temps, il faut bien le temps de les écrire. Ouais. Et à moins d'imaginer un système où l'éditeur vous enferme pendant 10 ans dans quelque part où vous ne faites qu'écrire et après, vous pouvez tout livrer d'un seul coup. On est obligé de suivre ce rythme comme ça. Et ce qui se passe à la fin du premier livre, moi, je sais pourquoi les choses sont comme ça, mais je sais aussi le temps que ça va demander pour qu'elles se mettent en place. Et il y a autre chose, c'est qu'une fois que les réponses sont données, il n'y a plus de livre. Donc, est-ce que les questions ne sont pas plus intéressantes que les réponses, quoi.
Oui, certainement. Bertrand, vous avez une manière de travailler un petit peu différente. Il semblerait... Alors déjà, on sait combien de volumes pour la première série. Et l'éditrice connaît la fin, bon, vous aussi, évidemment. Donc elle est dans la confidence, elle a dit « je ne parlerai pas, je ne dirai rien ». Donc, puis moi, je ne veux pas savoir, hein, je veux avoir la surprise comme tout le monde. Votre façon de travailler, en fait, c'est un plan très détaillé et vous remplissez au fur et à mesure ou de l'écriture, comment ça se passe ?
Oui, sur les effacés, bon, même si je me reconnais dans beaucoup d'éléments de ce qu'a dit Pauline, hein, sur l'écriture en elle-même, les effacés, c'est une série qui nécessitait, de par ça, l'idée même de la série et sa structure, de tout construire, enfin, tout du moins de construire les cinq premiers volumes, puisque c'est une histoire qui se referme. Il y a un fil rouge, en fait. Hein, chaque volume ou opération, hein, comme on a appelé ça, est une histoire en elle-même, et il y a un ou même plusieurs fils rouges sur les personnages, le mystère autour de personnages, le mystère autour même des effacés, donc qui court tout le long des cinq volumes. Donc effectivement, avant de démarrer la série, j'ai fait une bible, donc une bible qui fait une quarantaine de pages quand même, hein, qui reprend donc bien ce qui allait arriver aux personnages, le mystère, etc. Donc bible qui est qu'on ne montre pas, qui est gardée secrète, mais à laquelle je me réfère donc pour à chaque fois, voilà, qui sert de cadre pour la série dans son intégralité. Alors après, ça ne m'empêche pas de garder toute liberté pour chaque livre, puisqu'il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc un livre égale un milieu où donc les laboratoires pharmaceutiques, la finance, le sport business. Le quatrième, on sera un petit peu dans le rapport entre les médias et la manipulation des médias, etc. Il est évident que dans la Bible, il n'y avait pas la trame de chaque roman. Donc, même si, effectivement, moi j'aime bien travailler de façon hyper structurée, dans le sens où je vais même passer quatre fois plus de temps à préparer mon roman qu'à l'écrire, mais il y a une très grosse structure sur chaque roman, donc avec... Alors après, ça c'est bon, on travaille chacun différemment. Moi j'aime bien travailler donc avec plein de notes manuscrites, et puis ensuite je me mets sur un fichier Excel. Je fais plein de colonnes, plein de lignes par chapitre, ensuite ce que dans le chapitre il doit y avoir pour l'intrigue principale, pour l'intrigue finale, etc. Je remplis tout ça, j'ai mon fichier, et pour moi, à partir de ce moment-là, le roman est en partie terminé. Enfin, il y a l'écriture à faire, mais disons que je suis libéré parce que je sais où je vais avec ce roman-là. Et encore une fois, ça ne m'empêche pas, même dans le roman, d'avoir aussi des périodes de liberté, parce que dans l'écriture, et puis même des choses, bon, ça évolue. Hein,
mais je crois qu'on parle de la même chose.
Ça évolue, les chapitres peuvent changer, les chapitres peuvent se rajouter.
Ce n'est pas les mêmes stratégies,
mais les mêmes méthodes techniques. Et voilà, donc c'est effectivement, je pense que sur une série comme celle-là, il y a besoin quand même d'une structure. Et je pouvais pas. Moi, ça me fait. Je prends souvent l'exemple de quand on a un pitch, ce qu'on appelle un pitch, une idée attrayante comme la série télévisée Lost, qui est assez formidable sur l'île, etc., l'accident d'avion, etc. Mmh. Et puis après, ils ont tiré ça sur, je sais plus, 7 ou 8 ou 9 saisons. Et pour moi, ils ont complètement raté la fin. Je ne suis pas d'ailleurs le seul
à penser.
Et pourquoi ? Parce qu'au fond, ils ont eu une superbe idée et ils n'ont pas su. Ils n'avaient pas de fin au départ.
Aller au bout,
Et puis après, ça a marché, ça a fonctionné. Donc, ils ont tiré à la ligne, ils ont voulu rajouter des épisodes, et ils se sont complètement paumés.
Mais c'est souvent
donc,
comme ça pour les séries de livres aussi, qui ont 25 volumes.
Et ils n'ont pas pu, après, se retomber sur leur patte de façon cohérente. Et donc, ça, c'est clairement un échec. Je pense qu'il faut.
Je crois que de toute façon, dès qu'il y a plusieurs volumes, même s'il y a un seul volume, il y a une structure, et la structure, il faut structurer. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai l'impression parfois aussi que je passe plus de temps à structurer, à faire des plans. J'ai des centaines de pages en fait de plans et de tableaux. Je fais des tableaux, je fais des Excel. Bon, c'est pas Excel, mais c'est des tableaux quand même. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux axes dans ce genre de travail. C'est cet axe-là qui est de structuration, de préparation, qui a l'air d'un truc très rationnel, logique, presque mathématique. Mais ça, en fait, moi, la sensation que j'ai, peut-être toi aussi, c'est que ça permet justement la liberté après et de pouvoir en sortir. Et donc, ce n'est pas des choses figées. À la différence, je crois, les éveilleurs, la différence, peut-être, c'est que moi, on ne peut pas lire... chaque livre ne raconte pas une histoire. Donc, c'est moins... voilà, c'est moins... enfin, je ne sais pas comment dire, mais c'est vraiment un livre en plusieurs volumes.
Oui, on est dans la continuité.
Voilà, il faut les lire comme ça, et c'est peut-être ça qui est un tout petit peu différent, mais sinon...
Même si, bon, on peut lire, effectivement, chez lui différemment, mais si tu commences par le tome 3, c'est évident que tu n'auras pas toutes les clés pour le comprendre, au moins, tout du moins pour comprendre cette espèce de... d'affaires mystérieuses, d'identité des personnages qui courent le long des cinq premiers tomes. Donc, au fond, c'est pas non plus recommandé. Il vaut mieux commencer par le tome 1. Voilà.
Non, mais c'est pas toujours le cas. Mais là, en l'occurrence, en fait, vous avez ce point commun aussi dans la construction des romans, c'est que vous partez sur l'aventure pour Pauline, donc c'est cette perception des mondes invisibles aussi qui est très importante, l'attention portée à la nature, à l'écologie, on y reviendra après. Chez Bertrand, donc un univers beaucoup plus urbain et qui, à travers ses personnages, se révolte contre une espèce de deux mâles avec un grand M qui pourrit le monde, une espèce de connivence politique argent qui pourrit tout et contre lesquels les effacés tentent de lutter sous la direction de ce mystérieux Mandragore sur lequel il faudra absolument revenir aussi. Mais vos personnages, ils évoluent, ils grandissent, ils ont des souffrances, ils ont des deuils. C'est aussi, le deuil est un thème commun à vos deux séries qui m'a frappée. Ce sont des personnages qui vont se retrouver en situation de fragilité, en situation de combat, en situation de questionnement. Ils sont révoltés. Est-ce qu'on est révolté par essence quand on est adolescent?
Oui. Moi, je pense qu'on est plus révolté quand on est adolescent que au fond quand on est adulte. Enfin, il y a des adultes qui restent révoltés, qui restent révoltés. Mais oui, je pense que c'est tout l'intérêt de prendre des adolescents. Enfin, moi, mes personnages principaux des adolescents, c'est qu'il y a encore cette fibre de révolte qui va peut-être s'atténuer chez les adultes parce que on a un travail, on construit sa vie, sans faire de généralité, on perd peut-être un petit peu de sa révolte au fil des années.
Et puis sans être révolté, on peut, enfin moi particulièrement, j'étais une adolescente assez révoltée. Mais je crois que j'ai pas tout perdu de cet élan-là. Mais sans être révoltée, on peut juste questionner les choses. Et dans la société dans laquelle on vit, questionner simplement peut déjà être considéré comme un signe de rébellion, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui est intéressant, c'est de se poser des questions. Enfin, je reviens à l'histoire des questions. Et quand vous parliez, Véronique, j'ai envie de dire, vous parliez des personnages, j'ai envie de dire, mais oui, c'est des humains. Ouais. Voilà, ce que vous décrivez, c'est ce que vivent les humains. Et apparemment, Bertrand, dans son livre aussi, il parle de personnages. Enfin, nous, on parle de personnages qui sont ni des robots, ni des ni des gens d'une autre planète, ni. Enfin, quoique les miens sont pas tous humains d'ailleurs. Mais voilà, on parle de sentiments humains, donc d'où la souffrance, le deuil, l'apprentissage, la croissance, tout ça. Est-ce que vous avez lu ces livres? Enfin, est-ce que parmi vous, il y a des spectateurs, si je puis dire, qui les ont lus pour savoir si ce dont on parle, ça vous dit quelque chose ou rien du tout. Vous les avez pas lus? Super. Non, c'est bien.
C'est un terrain vierge, absolument. Non, moi, je suis la naïve. Évidemment, si j'ai aimé les deux séries, c'est parce que les personnages ont de la chair. Et ils sont pour moi vivants. Je crois que dans la Gazette, j'ai vu une phrase où vous disiez, j'écris pour les adolescents, enfin en résumé, parce que ce sont ceux qui croient le plus dans le caractère vivant des personnages, ce sont ceux qui se les approprient comme des personnages.
C'est-à-dire moi j'ai fait beaucoup de littérature, entre guillemets, adulte avant, donc quand le rapport que je pouvais avoir avec mes lecteurs était complètement différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, les lecteurs, ils vont venir vous voir en disant, oh là là, tel personnage, mais qu'est-ce qui va lui arriver, mais c'est pas possible. Ils vivent vraiment avec les personnages, avec les intrigues. C'est-à-dire pour eux, le livre devient presque une réalité, enfin une seconde réalité.
Et quand tu lis, tu sens pas ça, toi? Parce que moi, quand je lis, je sens toujours ça. Hein.
Parce que nous, on a dû rester pour écrire nos livres, on a dû rester un petit peu adolescent. Mais le rapport que j'ai avec les lecteurs adultes, moi, c'était en gros quand il voulait se faire dédicacer un livre, il me le tendait. En gros, c'était, je lisais dans leur regard que c'était plus pour me faire plaisir à moi qu'à eux. Si c'était pas le lecteur qui venait me demander avec son livre, avec un autre livre sous le bras où se trouvait le scotch ou les crayons dans les rayons. Et sinon, c'était pour me dire que page 213, il y avait une faute d'orthographe. Donc bon, après, je caricature un petit peu, mais il y avait un peu de ça. Et c'est vrai que c'est pas du tout le rapport qu'on peut avoir aujourd'hui avec des lecteurs. Voilà. Toi aujourd'hui c'est le cas, mais dernièrement dans une librairie à Paris, il y a un ado qui avait fait plus de 100 km pour venir me voir, pour me parler des livres. Voilà, bon, il voulait vraiment me rencontrer. Donc c'est vraiment, je trouve, une autre. Voilà, le livre a comme une réalité, ouais. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, ils attendent le livre. Je l'ai eu 2 jours après la sortie nationale, c'est horrible. Bon, c'est voilà. Alors bon, après ça fait plaisir évidemment quand on est auteur. Mais oui, donc je trouve que c'est plus gratifiant en tout cas, ouais. Pour un autre, d'avoir un public ado, parce que c'est un public auquel on peut beaucoup plus partager.
Bah, je crois que les adultes, ils osent plus dire ça, mais je pense qu'ils certains, j'espère, d'entre eux le ressentent encore quand ils lisent. Vraiment, en tout cas, quand je lis, je ressens ça. Hein. Je me dis, je me ressens comme.
Après, ça dépend ce que tu lis.
C'est
aussi.
Un lecteur, oui, ça dépend. Bah, si tu lis, un livre où tu ressens. Moi, j'essaie d'éviter des livres où je ressens rien. Ceux-là, je préfère pas les lire. Mais peut-être qu'ils n'ont plus, ce qu'ils ont plus, c'est les adultes dont nous faisons partie, c'est la simplicité de dire les choses et de dire ce qu'ils ressentent et d'avouer qu'ils ont eu peur, pleuré, ri, etc. Je veux dire, effectivement, par contre, c'est vrai. Alors moi, j'ai pas de public, mais j'ai beaucoup de lecteurs adultes, donc c'est pour ça que c'est curieux, quoi. Mais c'est un contact, le contact avec le lecteur est vraiment gratifiant, quoi. C'est vraiment important, et c'est vrai que c'est nourrissant, très nourrissant.
Comment vous créez vos personnages? Qui répond? Qu'est-ce qui vous inspire dans...
Sous la douche, aussi?
Sous la douche, ah oui.
Et on ne prend pas la douche ensemble. Ça... Toi aussi, sous la douche?
Partout, sous la douche.
Non, mais moi, beaucoup
sous la douche.
Sous la douche,
ouais. moi, les personnages, alors...
Ceux-des effacés.
Les personnages.
Qu'est-ce qui a motivé déjà la série?
Ah oui, alors ce qui a motivé déjà la série, c'est une idée moi qui me tient à cœur depuis longtemps, que j'ai réussi à exploiter pour les effacer, à mettre en page. C'était en fait mon ancien éditeur, quand j'étais aux éditions du Masque, Didier Imbaud, son père était directeur général des services extérieurs. Et donc c'était un peu le chef des espions, quoi. Voilà, le chef des James Bond français. Et il s'est trouvé qu'il avait deux fils, donc un fils éditeur qui était mon éditeur et l'autre fils qui était donc agent secret, enfin espion, travaillait beaucoup en Asie, du côté de Taïwan. Il s'était occupé de la fameuse affaire des frégates de Taïwan, donc qui a défrayé la chronique il y a quelques années. Et donc il a été muté, il est revenu d'Asie, il a emménagé dans un appartement du 7e arrondissement à Paris. Et un jour, on l'a retrouvé en bas de son immeuble, mort, dans la cour. Et le verdict de la police, c'était en gros qu'il était en train d'accrocher ses rideaux et qu'il est tombé. Bon. Explication qui n'a pas convaincu pleinement le père, bon, qui était quand même un peu rompu à ce genre
la
de choses.
Pauline est catastrophique.
Bah oui, parce que c'est horrible.
Oui, c'est horrible. Et il a fait donc une enquête parallèle, le père. Et en fait, il s'est trouvé que la distance entre le mur de l'immeuble et là où on a retrouvé le corps était trop importante.
Pour qu'il soit tombé.
Pour qu'il soit juste tombé. Donc, ou alors, il accrochait ses rideaux en courant son appart. Ou alors, il a été poussé. Et bon, alors on a lu à ce moment-là quelques petits entrefilets dans la presse, mais vraiment des petites choses dans une colonne, 5-6 petites lignes. Et donc voilà, on était dans une affaire donc avec l'implication de ministres, de patrons de grosses entreprises françaises, etc., qui fait que ça n'est jamais... Enfin voilà, il y a toujours le mystère, mais comme il y en a plein tout au long de la Ve République... Le ministre Boulin, du temps de Giscard d'Estaing, qui avait été retrouvé noyé dans 20 cm d'eau, avec de l'eau dans ses poumons, qui n'était pas l'eau de la mare où il était. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses comme ça. Et donc c'est venu de là, c'est-à-dire en gros, toutes ces affaires dont on ne connaît pas la fin, dont on ne connaîtra jamais la vérité, toutes ces personnes effacées, donc pour des raisons diverses et variées, mais toujours de mauvaises raisons, ou alors de bonnes, mais pour les méchants. De là est née cette série, voilà. Et donc après, bah, l'idée c'était de le faire vraiment en essayant d'être ancré dans une certaine réalité. Donc pas forcément en reprenant des affaires évidemment réelles, puisque c'était, de toute façon c'était pas possible d'un point de vue historique, etc., en en inventant, mais avec à chaque fois un lien possible avec la réalité. Donc on peut revoir dans l'actualité les labos pharmaceutiques avec l'affaire Servier, de la grippe A, les fameux vaccins qui ont été achetés à des dizaines de millions d'exemplaires et qui n'ont servi à rien, sur tout ce qui est finance, les algorithmes, qui aujourd'hui régissent un petit peu la bourse, c'est des choses aussi qui existent. Et puis les paris truqués, le dopage, le sport business, bon, ça c'est on peut en lire aussi tous les jours. Ouais. Voilà, donc c'est l'idée, c'est de s'attaquer, oui, à ces zones d'ombre et de le faire pour offrir ça aussi à un public adolescent qui ne s'intéresse peut-être pas à ça au quotidien, mais de leur donner la possibilité de s'y intéresser sous la forme d'un roman si qu'on a envie de lire, qu'on a envie de tourner les pages très vite parce qu'il y a du suspense, etc. Et lui donner peut-être aussi quelques clés, et il peut aller derrière, s'il veut en savoir plus, il peut le faire. Et moi, je reçois aussi beaucoup de mails de lecteurs qui justement me disent après, oh, j'ai été chercher ce que vous dites sur Internet, mais oui, ça existe, c'est vrai. Bon, voilà. Donc ça, c'est marrant parce que derrière, bah, voilà, il y a... Il y a une prise de conscience, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un
questionnement.
Voilà, il y a un questionnement, ouais. Hein, on en revient à ça, sur tous ces sujets qui sont des sujets, bien évidemment, aujourd'hui d'importance.
Rassurez-moi quand même, le dopage tel qu'il est traité dans le tome 3 n'existe pas encore.
Non, alors ça va venir, oui, je pense. Bah si, parce qu'en fait, alors bon, il n'existe pas. Alors effectivement, le dopage un peu high-tech que j'ai mis en place dans le tome 3, il n'existe pas encore. Mais cela dit, il y a des, j'ai aggloméré un certain nombre de choses parce que il y a des éléments que je reprends dans ce dopage qui existent aujourd'hui. Bon, je peux pas le dire.
Oui,
là,
avec les nanotechnologies.
Voilà, avec les nanotechnologies, des choses comme ça, on pourrait imaginer plus dans le futur que ça puisse apparaître.
Ouais. Bah, c'est ce qui m'a particulièrement glacé à la lecture des Effacés, c'est qu'on est si proche du réel que oui, tout ça pourrait arriver demain, grandeur nature, et voilà.
Mais par exemple, sur l'algorithme, il y a un algorithme d'une crise boursière dans le tome 2, donc qui fait que toutes les bourses du monde s'effondrent à un moment, et je donne une date, et cette date, si on tape cette date sur Internet, sur Google, on verra que ce jour-là, il y a eu ce qu'on appelle un flash crack. Ouais. Ça veut dire qu'en quelques secondes, la bourse a perdu 5 ou 6% à New York, parce qu'effectivement, il y a un algorithme qui était parti en vrille. Donc voilà, c'est une réalité qui est là. Quoi. Voilà, donc alors après, moi, je me sers de ce fait-là pour le remettre dans mon roman et en faire un petit peu le démarrage. Mais il y a beaucoup de choses. Les matchs de foot truqués dans le tome 3, bon, c'est bien sûr que ça existe. Enfin, y a eu d'ailleurs un reportage il n'y a pas longtemps sur Arte absolument édifiant. On voyait un match de 3e division belge. Troisième division belge, bon voilà, déjà que la première division doit être pénible, la troisième ça doit être quelque chose. Et donc c'était dans un tout petit stade, dans une toute petite ville, et il y avait personne, donc il y avait les joueurs qui jouaient, il y avait personne dans le public, à part deux Chinois qui étaient pendus au téléphone et qui renseignaient, je sais pas trop quoi, le reportage, les films, etc., sur des officines de Paris à Singapour ou à Shanghai. Et il y avait des sommes colossales d'argent qui étaient jouées sur ce match-là. Donc voilà, à telle minute, un but a été marqué. Et derrière tout ça, il y avait bien évidemment le blanchiment d'argent. Puisque quand on parie une somme en liquide dans une officine de Paris, ça ressort sous une forme où l'État a mis son blanc-seing parce que l'officine a été agréée par l'État, et donc l'argent sale devient propre. Voilà. C'est des choses qui existent, et malheureusement, j'invente rien.
On n'invente rien à partir de rien, je veux dire. On n'invente pas les choses à partir de rien. On va pas même la science-fiction la plus délurée, elle part de choses qui sont... on part de nous, existe. Donc, parfois, j'ai l'impression qu'on recombine les choses, on les recombine, on y injecte avec plus ou moins de... de bonheur, de talent ou je ne sais pas quoi, de l'imagination, de la fantaisie, des choses différentes. Mais on part de choses qui sont réelles, ou qui le seront. Et on fait des extrapolations.
Alors, ce qui rend humain, alors, les effacés, on n'a pas expliqué qui c'était. Au départ, ils sont quatre. Ils vont très vite être cinq adolescents. Qu'est-ce qui leur est arrivé ?
Oui, quatre adolescents dont les parents ont été donc assassinés pour une raison qu'on ne connaît pas et qui, mais qu'on soupçonne une raison un peu d'État autour d'un secret donc conservé en haut lieu. Et donc ils sont bientôt rejoints par une cinquième effacée, donc dont la mère aussi a été assassinée. Et ils vont donc, ils sont recueillis en fait donc par, alors eux aussi d'ailleurs auraient dû être effacés, simplement ils sont recueillis in extremis par un personnage assez étrange qui s'appelle Nicolas Mondragor, qui est l'ancien directeur de la morgue à Paris, et donc qui les recueille, qui les installe dans une grande villa dans la vallée de Chevreuse, donc en banlieue parisienne, et il va leur faire donc vivre des missions. Il va aller justement les mettre sur la piste de ces entrefilets dans les journaux, de ces affaires comme ça, donc qui paraissent rien, puis quand on tire un petit peu le fil, on arrive sur des scandales potentiels énormes. Et donc il va les mettre sur ces affaires là. Après, savoir si c'est pour la, il va le faire pour une bonne, pour une mauvaise raison. Qu'est-ce qui lui le motive à faire ça ?
Je voudrais bien
savoir. Qu'il dit, oui. Est-ce qu'il dit tout à ses troupes ? Voilà. Et ça, c'est effectivement ce fameux fil rouge, donc qui court le long des cinq premiers tomes.
Ouais, c'est un personnage qui gagne en ambiguïté au fur et à mesure des volumes. Donc le mystère s'épaissit autour de ses motivations. Et dans le même temps, les effacés, ce que je disais tout à l'heure, ce sont des personnages qui ont du mal à accepter. Au début, qui sont assez reconnaissants. Et puis qui, petit à petit, se rebellent, se questionnent. On en revient toujours à ça.
De toute façon, déjà, c'est quand même des ados qui ont perdu leurs deux parents. Il y en a qui n'en avaient plus qu'un, malheureusement. Enfin, qui ont perdu leurs deux parents, qui sont recueillis par un homme qui leur dit, voilà, vous êtes considérés comme morts pour la vie civile, vous n'avez plus d'état civil, puisqu'il est obligé de simuler leur mort, donc de faire leur enterrement, donc ils n'ont plus vraiment d'identité. Ce qui leur donne aussi, du coup, beaucoup de liberté à côté. Donc c'est évident que si au départ, ils trouvent peut-être derrière tout ça un côté amusant, mais de jeu, ou de dire, voilà, il faut que je comprenne pourquoi mes parents étaient assassinés, etc. Il y a un moment où, voilà, ils sont coupés de tout. Ils ne voient plus leur famille, leurs amis. Donc, il y a des amitiés qui se créent, bien évidemment, autour d'eux. Mais c'est une situation qui est difficile. Qui est difficile à vivre, ça c'est une certitude. Et c'est d'ailleurs intéressant de jouer sur ça. Puis il y a toute une nostalgie aussi, c'est-à-dire que dans chaque roman, ils vont retrouver aussi par un lieu où ils se déplacent de par leur mission, un lieu qui leur était cher, enfin qui leur est toujours cher, mais ils ne font plus vraiment partie de ce lieu, c'est-à-dire parce que effectivement ils sont coupés de leur vie d'avant.
Donc, action, émotion, vous aurez compris que les deux sont présentes dans les deux séries. Qu'est-ce qui vous nourrissait quand vous étiez adolescent au niveau des lectures ? Adolescent ou plus tard ?
Je crois que ce que j'ai le plus fait dans ma vie, c'est lire. Je pense que j'ai passé le plus d'heures. C'est vraiment ce qui m'a occupé depuis le moment où j'ai su lire, vers 8 ans. À tel point que je peux pas trop dire quoi, parce qu'il y avait beaucoup de choses. C'est encore ça. Beaucoup d'auteurs, beaucoup de livres, beaucoup de choses différentes, beaucoup de poésie.
Dans Les Éveilleurs, il y a beaucoup de références à la littérature actuelle.
C'est des clins d'œil,
plein de clins d'œil, Toby Lawless.
Oui, pas seulement à la littérature actuelle, d'ailleurs, à la littérature tout court.
Oui. Mais beaucoup de références, ce qui est rare, c'est pour ça que je le souligne, à la littérature ado contemporaine.
Oui, parce que moi, je pense qu'un livre en tire un autre. Et qu'un livre tout seul, c'est rien. Ce qu'il faut, c'est une bibliothèque. et que les livres se parlent entre eux, quoi, s'échangent. Et quand on en lit un, on a envie d'en lire d'autres. Et que, par exemple, là, j'entends parler Bertrand que je ne connaissais pas, et j'ai envie de lire son livre, et ça va peut-être me mener ailleurs, etc. Et que cette succession comme ça, et ces échanges entre les livres, moi, j'ai toujours l'impression que les livres dans les bibliothèques, ils se chuchotent des choses. Oui. C'est important. Et comme moi, j'ai été vraiment nourrie par ça, mon imagination a été nourrie par ça, et même je crois que je vivais plus dans les livres peut-être pendant un certain moment, plus là que dehors, j'ai eu envie d'en parler, et je trouve que c'est dommage parfois qu'on le fasse pas assez entre nous contemporains, si on peut dire. Mm-hmm. Et j'ai eu envie de le faire parce que juste voilà pour montrer, pour faire des passerelles. Parce que ça me semble important d'échanger ça aussi.
On n'en a pas encore parlé jusque-là, mais dans Les Éveilleurs, il y a un superbe hommage au pouvoir de l'imaginaire et à l'écriture à travers les personnages des
nomades de l'écriture.
Des nomades de l'écriture, ouais. Dont on lit des extraits, des carnets. Il y a une immense poésie dans ce texte, et on sent l'écriture comme une nourriture essentielle à la vie. L'écriture, la lecture, tout ça rebondit de l'un à l'autre. Et l'imaginaire est vraiment présent d'un bout à l'autre du roman. Et donc aide les personnages comme des béquilles, un petit peu, c'est un refuge. C'est parfois, pour d'autres, une inquiétude aussi, pour ceux qui ne pratiquent pas, mais ils sont peu nombreux. Donc c'est vraiment un roman qui est très lié aussi à l'écologie. C'est un thème important chez vous ?
Mais alors, sûrement.
Enfin, moi, je l'ai lu comme ça.
Mais non, absolument. C'est que quand j'ai commencé à l'écrire, je ne pensais pas à ça. Quand j'ai commencé à penser à cette histoire, c'était en l'an 2000. On est en 2012, donc ça fait déjà 12 ans. Les choses, pour moi, elles sont comme ça. Hein. Elles s'inscrivent dans le temps. Je me suis pas du tout dit je vais écrire un bouquin sur l'écologie, et je savais qu'il y aurait eu une grande catastrophe, mais je savais pas ce qu'elle serait. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des choses que je sais, des choses que je sais pas, j'ai découvert au fil du temps. Alors l'écologie, oui, enfin c'est l'histoire de la responsabilité, je crois qu'on a quelque part, Bertrand parle de ça d'une autre manière très très différente, la responsabilité qu'on a d'être là. On est là, on vit sur une planète, on vit tous ensemble, plus ou moins ensemble, mais on est tous là. On partage des choses qui sont communes. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait de ces choses-là ? Pourquoi on fait ce qu'on fait ? Est-ce qu'on pourrait faire autrement ? Est-ce qu'on n'a pas le droit de poser des questions ? Est-ce qu'on n'a pas le droit ? Et la nature, ça me semble évident que ça devient un vrai sujet de réflexion, sinon d'inquiétude. Oui, alors tout bêtement, vraiment, moi, ça me fait très mal au cœur d'imaginer que dans 50 ans, il y aura encore X, alors je ne sais plus les chiffres, je ne les ai plus en tête, mais X espèces qui auront disparu, que peut-être dans 100 ans, si on est encore là, l'ours blanc, ce sera une fiction parce qu'il n'y en aura plus. Alors, c'est pas une nostalgie, c'est pas juste une nostalgie de quelque chose qui n'existe plus, mais qu'est-ce qu'on a à la place et qu'est-ce qu'on fait de ça ? Et pourquoi on fait ça, comme ça ? Donc, c'est des questions. Alors oui, effectivement, on peut le mettre sous le thème de la... Il y a une préoccupation de la responsabilité, je crois.
C'est un petit peu comme si les effacés étaient le monde d'aujourd'hui, avec le mal, comme je disais tout à l'heure, donc les connivences désastreuses entre les différents types de pouvoirs, et qui amènerait vers cette grande catastrophe, cette irresponsabilité qui mène...
Ça pourrait être ça. Ça
pourrait être ça. Que l'un et l'autre sont liés. Enfin, deux regards sur le monde.
Ça pourrait être ça.
Sur le monde, ses défauts et ses dérives.
Mais il y avait plusieurs... c'est pas des thèmes, parce que je peux pas penser à ça comme ça, mais il y avait plusieurs envies, on va dire, ou désirs dans la trame de ce livre, et vous avez signalé quelque chose qui, pour moi, est important. C'est vrai, j'avais envie de parler de la lecture et de l'écriture. Et de l'imaginaire, parce que je vis pas mal là-dedans, je crois, mais tous, je crois.
Oui,
enfin, nous tous. Même les adultes qui disent que non, eux aussi. Et ça me. Je trouve qu'on peut en parler d'une manière simple, et que l'écriture, elle n'a pas besoin d'être quelque chose qui est l'apanage de quelques privilégiés. Qui écrivent et qui publient des livres. Et on passe tous, je ne sais pas combien d'années, 12 ans, ou j'en sais rien, à user les bancs de l'école pour apprendre quoi, finalement ? À écrire et à lire, à compter un peu. Et on peut donc tous se servir de ça. C'est des instruments, c'est des outils qu'on acquiert au prix parfois de beaucoup d'ennuis et de difficultés. C'est pas toujours un plaisir d'être à l'école et d'apprendre ce qu'on... Mais on apprend ça. Alors, autant s'en servir, on peut s'en servir. Ouais. Et oui, sûrement, comme pour moi, ça a été des choses importantes, j'avais envie de le partager d'une autre manière. Et donc, dans le quatrième volume que je suis en train d'écrire, qui n'est pas encore paru, un des personnages ira dans une école pour apprendre à être nomade de l'écriture. Parce qu'on peut aussi l'apprendre, ça. L'écriture, ce n'est pas un don qui tombe du ciel, tac, comme ça. Et c'est aussi un travail, c'est aussi quelque chose, c'est aussi un apprentissage. C'est aussi, oui, c'est vrai, j'avais envie de parler de ça.
Lecteur d'adolescent, Bertrand Ampleur. Je connais une passion pour un auteur du 19e.
Oui, oui. Oh, moi, j'ai un peu comme Pauline, je continue être un peu lecteur boulimique. Donc, je lis beaucoup, je regarde aussi beaucoup de films. Donc, j'ai besoin effectivement de nourrir énormément mon imaginaire. Je crois d'ailleurs que un auteur qui dirait j'aime bien écrire mais j'aime pas lire, j'ai un peu de mal à le croire. C'est un besoin, presque un besoin vital, mais c'est vrai que voilà, donc oui, les Agatha Christie, les Conan Doyle, toutes les lectures d'adolescents qu'on peut avoir, et puis après effectivement des auteurs moi que j'aime beaucoup comme Zola, comme Dumas. Ce que j'admire chez Zola, c'est cette grande fresque romanesque qu'il a fait de 20 volumes d'une famille. C'est absolument admirable de voir tous ces personnages qui se croisent, qui se recroisent. Ça fait rêver un petit peu l'auteur que je suis, parce que j'aimerais parvenir à faire justement quelque chose d'aussi dense, d'espèce de somme romanesque. Pauline parlait d'intertextualité. C'est intéressant parce que moi aussi, dans mes livres, j'aime beaucoup jouer avec ça. Et par exemple, alors c'est des choses que, évidemment, on peut voir ou on ne peut pas voir. Ça ne gêne absolument pas. Il y a beaucoup de clins d'œil sur des noms, par exemple, de personnes. Mais il y a aussi, par exemple, un personnage du tome 2 qui est un personnage que j'étais emprunté au démon de Dostoïevski pour le mettre dans le livre. Voilà, c'est des petites choses aussi. J'aime bien aussi jouer avec tout ça pour montrer qu'effectivement un livre souvent naît d'un autre livre, et que un auteur, c'est pour moi, c'est d'abord quelqu'un qui a beaucoup lu, qui a beaucoup emmagasiné, puis qui à un moment se dit bon, est-ce que je ne suis pas capable avec tout ça de faire ma propre littérature? Et à ce moment-là, de voir si elle se tient d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'est pas qu'un plagiat ou de ce qu'on aime, mais la réussite de digérer tout ça et d'en faire donc quelque chose de très personnel. Voilà. Donc ça passe évidemment par un apprentissage qui est un apprentissage de lecture et après dans l'écriture même. Mais d'ailleurs, beaucoup aussi des lecteurs qui m'écrivent, ce sont souvent des ados qui écrivent eux-mêmes. Alors est-ce qu'ils iront au bout de leur démarche? Parce que après il faut, ça nécessite beaucoup d'investissement, ça nécessite mais on sent quand même qu'il y a beaucoup d'ados qui ont envie d'écrire. Peut-être d'ailleurs même dans cette salle, dans cette assemblée, il y a certains d'entre vous qui écrivent. Donc c'est intéressant de noter ça. Quoi. Ouais.
En deux minutes, si vous aviez, à part vos livres, un conseil de lecture à donner à nos adolescents, là. Le livre qu'il faut lire, le défi.
Mais non, mais c'est impossible de répondre à cette question. Parce que ça dépend aussi du lecteur.
Moi-même, toute la journée, je pose mille questions avant d'en conseiller un.
Oui, c'est ça. Mais je ne sais pas, les nôtres, ça serait bien.
Bon, on va commencer par ça, alors. Le temps passe trop vite. Moi, j'aurais bien continué une heure de plus avec chacun. Ça fait déjà une heure. Une vraie folie. Donc, il me reste à vous remercier.
Merci à vous.
Merci.